Et c'est à vous, Ilona Youssouf Haro. Bonjour.
Rebonjour Kamar et rebonjour à tous. Alors effectivement, on accueille à présent Seyfi Mikael. Alors vous portez l'étiquette lutte ouvrière dans la première circonscription de Mayotte. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Alors lutte ouvrière clame que les élections ne changeront rien au devenir des Français. Vous d'ailleurs, vous ne vous en êtes pas caché, vous ne vous attendez pas à siéger au Palais Bourbon après le 7 juillet. Pourquoi mettre un point d'honneur à participer à ce scrutin ?
Alors, effectivement, je n'imagine pas siéger au Palais Bourbon à l'issue de ces élections. Pour autant, si jamais ça arrive, j'irai et je porterai la voix des travailleurs. Et c'est pour ça que je suis là. Parce qu'au sein de ces élections, le diagnostic fait sur la situation à Mayotte, qu'on pourrait faire aussi en France, à travers le monde, il y a une certaine unanimité. Tout le monde comprend que ça dysfonctionne, les salaires sont trop bas, la vie est trop chère. Il y a une montée du racisme, de la xénophobie, il y a des politiques guerrières qui sont menées, il y a de la pollution, les services publics s'écroulent. Donc là-dessus, je pense que ça ne sert à rien de perdre du temps à parler. Tout le monde est d'accord. Par contre, là où moi, je vais porter une voix différente et j'espère que je vais, par cette voix, amener une certaine dynamique à Mayotte qui n'existe pas, c'est la dynamique de la lutte des classes, la voix des travailleurs, parce que toutes ces causes, tout ce constat déplorable, catastrophique que tout le monde fait, il a une cause fondamentale qui est l'organisation sociale, qui est un mode de production capitaliste. Et ça, je pourrais effectivement l'étayer par des exemples très concrets, très locaux, très ancrés sur le territoire de Mayotte. Et donc, c'est pour ça que je me présente. C'est d'une part donc pour que les travailleurs, pour les aider à construire une conscience de classe, pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de fatalité, que le problème, ce n'est pas l'étranger. Peu importe les raisons, hein, que ce soit un étranger parce qu'il n'a pas la nationalité française ou que ce soit un étranger parce qu'il n'a pas la même culture. Et là, c'est plus pour la France. Et d'ailleurs, c'est quand même quelque chose sur lequel on pourrait réfléchir, que voir que la population mahoraise, finalement, donne sa voix à des partis dans le fonds de commerce et quand même l'islamophobie. Donc, voilà, toutes ces propositions politiques, elles nous divisent. Et moi, je suis venu, j'ai présenté ma candidature pour proposer des alternatives qui sont celles de la lutte de classe, le fait que les travailleurs produisent toutes les richesses sur cette société et que la problématique, c'est qu'une grosse partie de ces richesses nous échappe, va dans les coffres forts des capitalistes qui ne sont pas riches à milliers, qui ne sont pas riches à millions, mais à milliards, à milliards.
Vous parlez de division. Une certaine expression dit que l'union fait la force. Pourquoi lutte ouvrière ne s'est pas, par exemple, alliée au nouveau Front populaire ?
Parce que le Front populaire ne tient absolument pas le discours que je viens de tenir devant vous. Le Front populaire n'est pas anticapitaliste. Quand bien même il est assez large, hétéroclite pour accueillir en son sein le NPA. Le NPA, ce n'est pas la France insoumise. Mais néanmoins, lorsqu'on regarde leur politique, elle n'est absolument pas... anticapitaliste. Et puis le Front populaire prône que en élisant des députés du Front populaire, demain il y aura les services publics, la vie sera moins chère, les salaires seront plus hauts, il y aura le soleil et le bonheur. Nous on le pense pas. Et c'est pour ça effectivement que par respect et par sincérité envers tous les électeurs, je ne prétends pas qu'en étant élu député, avec mes petits bras et ma petite tête, je vais réussir à sauver Mayotte. Le combat, eu égard à nos ennemis, qui sont les capitalistes, ne se passera pas à l'Assemblée. Notre force, elle réside où ? Elle réside dans notre nombre, dans notre conscience de classe et dans notre travail. On peut le voir très facilement à travers l'histoire et même ici. C'est lorsque les gens, non pas sont partis voter pour un député qui a fait des promesses, et quand bien même ce député, il est sincère, hein, il y croit. Mais il se retrouve face à un plafond de verre. Et finalement, les promesses, elles sont déchues. Et on est triste, on est triste, on est en colère parce que on s'est fait avoir et on repart voter. Mais non, c'est pas là que.
Et dans ce cas, pourquoi vous vous présentez alors en tant que député ?
Mais comme je vous le dis, d'une part, pour porter ce discours qu'on n'entend pas, un discours de lutte, pour faire comprendre, d'une part, pour faire prendre conscience aux travailleurs que le problème, c'est le capitalisme, et non pas l'étranger, ou le plus pauvre, ou le contractuel, ou le titulaire, ou la fonction publique. Il ne faut pas diviser dans le monde du travail. D'autre part, justement, pour expliquer que les élections sont une séquence qui ne permettra pas de changer les choses fondamentalement, que c'est par leur lutte qu'ils pourront le faire. Alors moi, effectivement, je profite des élections parce que c'est peut-être le seul moment où on me donne le micro. Donc on aurait tort de ne pas le prendre. Après, comme je l'ai dit, non, je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le dire, pardon. Moi, si je suis élu député, ben vous connaissez mon camp. Moi, je suis dans le camp des travailleurs. Donc toutes les dispositions qui seront favorables aux travailleurs à Mayotte, mais aussi en France et partout dans le monde, ben je les prendrai, je les voterai. Et même, je les pousserai. Parce que là, par exemple, encore une fois, on se fait avoir. Le discours, c'est quoi? C'est la convergence sociale. D'accord? Donc, il faudrait que le SMIC, le RSA, soient alignés à ceux qui se font en métropole. Mais c'est pas ça notre objectif. Parce que déjà, en métropole, ça ne permet pas de vivre correctement. Alors, à Mayotte, où la vie est chère, a fortiori, ça ne permet pas de vivre dignement. D'accord? Donc, on doit aller plus haut. Et d'ailleurs, ce n'est pas une absurdité de dire ça, parce que finalement, on est sur un territoire où une grande partie des travailleurs, qui sont agents publics, touchent une prime, touchent une majoration de 40%, parce que la vie est trop chère. Donc, expliquez-moi pourquoi les travailleurs du privé, a fortiori ceux qui sont utiles, les éboueurs, ceux qui travaillent au Doukabé, les dockers, tous ces gens-là, ne touchent pas cette prime. Pourquoi on ne leur permet pas de vivre dignement? La vie est trop chère, il faut payer plus cher les gens.
Saïfi, Mickaël, j'aimerais qu'on avance dans cet entretien. Avant d'être candidat pour les législatives, vous êtes fonctionnaire de l'éducation nationale. Nul besoin de vous dresser un peu le constat de ce qui se passe à Mayotte. Manque de professeurs, classe surchargée, violence dans les établissements. En dernière illustration, le collège de Dzoumouni incendié. La piste criminelle est privilégiée. Vous, député, vous ferez quoi pour changer tout ça?
Bah écoutez, effectivement, on constate qu'il y a un déficit de classe, qu'il faut construire des écoles, des collèges, des lycées. Moi, je suis au rectorat. Je connais très bien ce milieu-là, du coup. Et ici, à Tell. Alors là, je vais faire une petite digression, mais qui finalement va quand même un petit peu répondre à la question, du moins sur le fait qu'il n'y ait pas assez de classe pour scolariser les élèves. D'une part, c'est essentiellement au primaire qu'on n'a pas assez de classes. Et donc, le problème vient des collectivités territoriales, parce que c'est elle qui a la compétence pour construire ces établissements scolaires. Dans ce cas-là, encore une fois, on vote pour eux. Ce n'est pas suffisant. À un moment, il faudrait que la population aille contrôler les décisions, aille mettre le nez au sein des collectivités territoriales, des municipalités, pour demander des comptes. D'accord. Bon, moi, c'est toute cette dynamique-là, par mon discours, que je vais enclencher. Ensuite, moi, je comprends que finalement, la pression migratoire, elle fasse peur, parce que de toute façon, on est sur une île, donc il y a un caractère insulaire qui crée une certaine limite. Mais je pense que la problématique, ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de frontières. Là, je vais faire un point certainement sur la question, sur des questions suivantes. Je pense que la problématique pour la scolarisation est le fait que finalement, on n'ait pas assez de classes parce qu'on a trop d'élèves. Et admettons qu'on ait trop d'élèves, ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez de frontières, c'est parce qu'on en a trop. Parce qu'il y a une frontière qui marche très bien. C'est la frontière entre Mayotte et le reste de la France. D'accord ? On a beaucoup de personnes qui viennent ici et qui aimeraient être ici en transit, qui n'ont pas envie de s'installer là. D'accord ? Donc, ils sont ici, c'est un constat. Factuellement, ils sont réussis à venir. Qui est-ce qui les bloque? Qui est-ce qui les empêche de partir? C'est la politique française. Donc déjà, si finalement on libérait, parce que ça aussi, je vais le dire,
nous on l'assume. Est-ce que vous êtes pour la suppression du droit du sol?
Je ne suis absolument pas pour la suppression du droit du sol. Par contre, je suis évidemment pour la suppression du visa territorialisé. Je suis contre la suppression du droit du sol parce que c'est une mesure qui divise les travailleurs. Moi, je suis né en France, je n'ai pas choisi où je suis né. Je serais né ailleurs, dans un pays où les conditions ne permettent pas de vivre, si je pouvais partir et par ce départ gagner des droits qui permettent de vivre dignement, je le ferais. Je ne vois pas comment je pourrais rationnellement m'opposer à des gens qui font ça alors que moi je le ferais. Donc je suis évidemment pour le maintien du droit du sol, je suis pour la fin du visa territorialisé qui crée ce prolétariat, ce loupen prolétariat, comme disaient les marxistes, c'est-à-dire des gens qui vivent dans des bangas, qui n'auront pas d'emploi, à qui d'ailleurs l'éducation nationale fait miroiter, parce qu'il y a un discours sur l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est l'ascenseur social, c'est le mérite, c'est le travail à l'école qui permet de... D'accord ? Moi, j'ai souvent entendu ce discours, parce que d'ailleurs, avant de réussir mes études, j'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans le nettoyage, et je les entendais me dire que je n'ai qu'à travailler à l'école pour gagner de l'argent. C'est faux, et c'est d'autant plus faux ici qu'il y a un plafond de verre pour tous ces élèves. Après 18 ans, s'ils n'ont pas nationalité, ils sont bloqués. Il n'y a pas de filière, il n'y a pas d'emploi ici. Ils ont sans papier, ils ne peuvent pas partir. Donc finalement, on les fait murater pendant toute leur scolarité et on les scolarise hein, par principe. On tient toujours ses discours et après, on leur met un plafond vert, on les bloque.
Saïfi, Mickaël, sur un tout autre sujet, quel dispositif vous mettriez en place, vous, si vous êtes élu député, pour améliorer le pouvoir d'achat, ou quel combat meneriez-vous pour améliorer le pouvoir d'achat des Mahorais?
Oui, alors nous, on considère, bon, ça c'est plus un propos qui touche la métropole, donc ici, il faudrait, comme je l'ai dit, hein, il faut s'adapter aux conditions réelles d'existence de chacun, minimum 2000 euros pour vivre. D'accord. On ne peut pas vivre correctement en deçà de 2000 euros. Alors, il y en a beaucoup qui vont se dire que c'est démagogue, que c'est utopiste, etc. Je le reprends. Hein. Il y en a qui sont riches à milliards. Et d'ailleurs, le plus riche de tous, il est français, il en a 250. Non, il a plus de 250. Il a 254 ou quelque chose comme ça. Donc, l'argent, il y en a. D'accord. Donc, le minimum, ce serait de mettre des salaires à 2000 euros, les adapter selon les endroits. Et puis surtout que les salaires, les pensions et les allocations suivent l'inflation. Ça, c'est quelque chose qui a existé d'ailleurs et qui a été supprimé par qui? Par un gouvernement de gauche qui a été élu, qui a fait des belles promesses, c'est le gouvernement Mitterrand. D'accord? Donc, les salaires, les pensions, les allocations indexées à l'inflation, c'est le minimum parce que ces salaires, ils servent à quoi? Ils servent à vivre. Si les prix sont plus chers, on n'y arrive plus.
Chez Lutte Ouvrière, le leitmotiv, c'est combattre le capitalisme et donner le pouvoir aux travailleurs. Mais encore faut-il que les personnes aient un travail. J'avais évoqué tout à l'heure, lors du précédent entretien, le taux de chômage. C'est des chiffres de 2019. Il s'est élevé à 30%. Vous proposez quoi chez Lutte Ouvrière pour donner du travail, notamment c'est les jeunes qui sont concernés?
Oui, alors j'entends, j'ai entendu, parce que je ne les écoute pas nécessairement, mais j'ai entendu mon prédécesseur dire qu'il voulait créer des sociétés d'économie mixte, défiscaliser pour que les entreprises viennent ici, créer des emplois. C'est très éclairant sur qui a le pouvoir, qui décide. C'est-à-dire que finalement, les embauches, bah, c'est les employeurs effectivement qui décident, qui embauchent. Ils ne le décident pas pour créer de la prospérité, pour créer du travail pour tous et le partager. Non, eux, ils créent des emplois pour faire du profit. Et s'ils pouvaient avoir un seul salarié qui, en une journée, fait tout le travail, ben, ils l'engageraient. Donc, moi, sur les créations d'emplois, justement, ça recoupe avec tout ce que je disais tout à l'heure, c'est que tant qu'on ne viendra pas mettre la pression, tant qu'on ne viendra pas contester le pouvoir des grands groupes capitalistes sur le travail, sur les embauches et également sur ce qu'on produit, ben on n'arrivera à rien.
Je vais
étayer mon propos avec un exemple local que j'ai déjà d'ailleurs avancé ici même. Sauf erreur de ma part, Mayotte, c'est l'île au parfum. C'est son surnom, il y a des richesses, il y a seulement l'île Anguilang. Et on a en France un parfumeur très connu qui s'appelle Bernard Arnault. Et c'est donc lui qui a 250 milliards hein, dans son coffre. Il pourrait créer des emplois ici. Il pourrait créer des emplois ici. Il a le capital, d'accord. On a des travailleurs et on a de la matière première. Est-ce qu'il le fait? Non, il ne le fait pas. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prélever cette matière première en face aux Comores. Pourquoi il fait ça? Parce que là-bas, les salaires sont plus bas. Lui, il raisonne uniquement en termes de profit. Et il a un mépris total pour nos existences, et pourtant nos existences dépendent de lui. Vous voyez, moi, je lui confierais même pas une boîte d'allumettes à ce monsieur-là, tellement il met nos vies à feu et à sang. Et du résultat, les conséquences, ben, elles sont multiples. Parce que finalement, les gens qui en face aux Comores extraient, produisent l'ylang-ylang, qui ensuite est transformé en parfum, ben, ils sont payés 15-20 euros la journée. À ce prix-là, ben, évidemment, ils ont envie de partir pour avoir une vie meilleure. Donc, ça crée un flux migratoire. Ça, c'est le versant du fait que nous, ici, on a du chômage. Donc, moi, je vous le dis, le pouvoir, il est dans les entreprises et c'est ces gens-là. C'est contre ces gens-là qu'il faut qu'on se batte. Et tous les députés, pas les députés, pardon, les deux députés que vous allez élire et tous les candidats que vous entendez, tous les politiciens que vous entendez, si jamais ils ne remettent pas en cause ce pouvoir du capital, ben, ils ne changeront pas nos vies. Ils vont se coucher. Et ça se décline dans tous les domaines. Je vais continuer. On manque de santé ici à Mayotte, d'accord?
On va pouvoir continuer, monsieur Saïfi Mickaël, mais en attendant, il y a aussi les questions des auditeurs, mais l'échange se poursuit.
Les auditeurs via notre standard ou via nos SMS, et vous êtes avec nous. Bonjour, Caribou, votre question.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Ouais, je suis Idaloussi Abdelaye, je suis de la Roi. Ma question, il est est-ce que Moutou a le babo, est-ce que Asoshinda a Samil Soma sur le moyen urne?
On va traduire.
Il demande que vous allez supporter que vous perdiez les élections parce que vous allez sûrement perdre.
Est-ce que moi, personnellement, psychologiquement, je vais supporter de perdre les élections?
Oui.
Oui, oui, bien sûr. Je me suis préparé.
Parce que c'est ce qu'il prévoit.
Alors, d'accord. Oui, peut-être c'est un médium, mais bon. Bonjour, pouvez-vous nous donner deux exemples de cas où l'anticapitalisme a été un succès à Mayotte? La personne, l'auditeur nous parle.
À Mayotte? Bah écoutez, je pense que ce discours anticapitaliste, il est assez nouveau. Et je pense que historiquement, ça n'a pas existé. Ou alors, peut-être qu'effectivement, il y a des événements historiques qui m'ont échappé. Mais très bien. Moi, je pourrais vous en donner un autre. L'esclavagisme. Parce que souvent, on pense que l'esclavagisme, ça a été une institution antérieure au capitalisme. Mais c'est faux. L'esclavagisme, la traite négrière, s'est faite en parallèle de l'explosion de l'avènement du capitalisme au 16e, 17e, 18e siècle, d'accord ? Mais il y a des gens à Mayotte qui ont été esclaves, comme dans toutes les colonies, et qui se sont battus, qui se sont révoltés. C'est par leur révolte qu'ils ont réussi à abroger ce système totalement criminel. Et je vais l'étayer. Si l'esclavagisme en France au 19e siècle, a été aboli, c'est parce qu'il y avait des révoltes d'esclaves. C'est pas parce qu'on a élu des députés avec la monarchie de Juillet qui ont considéré que non, c'était mal. C'est parce que les gens qui étaient opprimés se sont eux-mêmes levés. Ils ont déjà brisé les chaînes qu'ils avaient dans leur tête, qui étaient beaucoup plus fortes à l'époque, parce que l'esclavagisme reposait sur quoi? Sur l'acceptation que ma couleur m'infériorisait. D'accord? Sur le fait que j'étais pas capable. Sur la religion qui disait que c'était normal que je souffre ici parce que j'avais commis des péchés, etc. Donc vous voyez toutes les chaînes qu'ils avaient dans leur tête. Nous, on en a d'autres. Nous, on en a d'autres. On a la nation, on a le fait qu'on pense qu'on n'est pas capable, qu'il faut qu'il y ait des gens qui nous dirigent, que le capitalisme, c'est un horizon indépassable. Ça, déjà, nous aussi, il faut qu'on le fasse péter.
Alors, une personne pose une question aussi via les SMS. Pourquoi tout d'un coup, Lutte ouvrière s'intéresse à Mayotte alors que Lutte ouvrière préfère le retour aux Comores?
Lutte ouvrière ne préfère absolument pas le retour à Mayotte ni le rattachement à la France. Lutte ouvrière, comme j'essaye de le dire, n'est pas nationaliste, n'est pas raciale, ne se passe pas sur l'origine ou la culture. On est totalement indifférent à tous ces éléments-là. On voit juste des êtres humains, on est sur un rapport de classe. Donc nous, on défend les travailleurs, peu importe où ils sont, peu importe ce qu'ils font. Les travailleurs du textile au Bangladesh, les ouvriers en Slovaquie, les dockers à Mayotte, les infirmiers au Brésil, tous ces gens-là font partie de notre camp, du camp des travailleurs, et on les défend contre nos oppresseurs qui ne sont pas des gens d'une autre couleur, d'une autre taille, d'une autre nation, mais qui sont les gens qui nous exploitent, les capitalistes, et éventuellement les politiciens et les États qui sont leurs bras armés. D'accord ? Pourquoi Lutte ouvrière n'était pas là avant ? Parce qu'il faut des militants. Là, ce discours, je pense, les gens nous écoutent, certains ont déjà une petite culture, une petite conscience de classe, doivent comprendre. Pour d'autres, c'est un discours totalement nouveau. Et effectivement, celui qui disait que est-ce que je m'attends, est-ce que je suis prêt à perdre, j'imagine que pour lui, c'est un discours nouveau. Moi, je suis là pour enclencher cette dynamique, pour que ce discours qui me semble pertinent, et j'attends d'ailleurs qu'on le contredise, j'attends qu'il y ait une question qui permette de dire que non, le problème vient pas de là. D'accord ? Moi, je suis là pour le diffuser. Et j'espère, d'ailleurs, par cette intervention, que cette conscience de classe, elle va monter et que des gens ici vont s'y retrouver, vont voir que les perspectives que je défends, elles sont pertinentes, ce sont les seules qui peuvent fonctionner et vont créer un parti. Nous, on est là pour créer un parti des travailleurs et pour qu'on se défende nous-mêmes. Encore une fois, il y a une certaine cohérence. Si je vous dis par respect et sincérité que moi, en tant qu'élu, certes, je me battrai pour vous, mais je n'arriverai pas à tout changer, c'est parce qu'on pense que le changement vient de la base, vient des travailleurs, vient là où tout se passe, là où on produit les richesses, dans les entreprises. Sans ça, il n'y a plus rien qui fonctionne. Encore un exemple pour illustrer le propos, pour dire que je suis concret et que je ne suis pas hors sol, le Covid. Quand il y a eu le Covid et que tout s'est arrêté, plus rien ne fonctionnait. Qu'est-ce qu'on a dû faire? Refaire bosser les gens. Les capitaux étaient toujours là, Bolloré était toujours là, Bernard Arnault était toujours là, Elon Musk était toujours là, mais il n'y a rien qui fonctionnait. Notre puissance, notre force, notre utilité, elle est dans le travail. Donc, il faut qu'on s'organise en tant que travailleur.
On prend une autre question avec nos auditeurs. Bonjour, Caribou.
Allô, salam alaikum.
Alaykoum salam.
Bonjour à l'invité qui est là. C'est Monsieur Bako, hein, Bako Mazda. Alors, j'aurais en fait deux questions à lui poser. Bonjour, monsieur.
Allô?
Vous êtes contre le droit, la suppression du droit du sol sur ce territoire, alors que tout est saturé, tout. Et c'est la réalité. Vous travaillez sur ce territoire, vous connaissez cette situation. Donc, une fois élu, que comptez-vous faire? Première question. Deuxième question, et ça sera la dernière. Qui détient l'économie de ce territoire? Et une fois élu, quelle loi, monsieur le futur député, va mettre en place pour inverser la tendance? Merci, je reste à
Merci.
l'écoute pour les réponses.
Merci beaucoup. Alors, si on peut lui apporter ces deux réponses.
Alors, oui, je suis contre le refus.
Le droit du sol. C'est ça, la
Oui,
suppression
la
du droit
suppression
du
du
sol.
droit du
Je
sol.
suis contre
En
la
fait, il
suppression.
dit que tout est saturé, donc voilà.
Tout est saturé à Mayotte et le problème, ce serait qu'il faudrait arrêter ce dispositif qu'on appelle le droit du sol pour que les gens n'aient plus intérêt à venir et que donc on soit moins saturé ici. Bon, ben moi, je vais vous proposer de raisonner inversement. Si le droit du sol s'appliquait tel qu'il s'applique en métropole, parce qu'il est déjà dérogatoire à Mayotte, on est d'accord, hein. Ou même s'il suffisait juste qu'une personne vienne ici et naisse ici pour être française, ben, elle pourrait partir. Tout comme nous, on peut partir. Elle pourrait prendre son billet d'avion et partir en métropole. Donc finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas assez de frontières. C'est qu'il y en a trop et que la frontière qui est plus grosse, infranchissable, pour beaucoup, c'est la frontière entre Mayotte et le reste de la France. Et d'ailleurs, je vais même continuer là-dessus. C'est-à-dire que moi, je voudrais bien, même si je pensais comme beaucoup, que le problème, c'est le flux migratoire et qu'il faut l'arrêter. D'accord? Est-ce que ça marche? Regardez le nombre de barbelés, de murs. Toute la technologie hein, qui peut être mobilisée pour empêcher les gens de circuler. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça les arrête? Les gens le font quand même et au prix de leur vie. Ça ne fonctionne pas entre les États-Unis et le Mexique. Ça ne fonctionne pas entre Israël et Gaza. Ça ne fonctionne pas entre l'Afrique et la France par la Méditerranée. Bah, a fortiori, ça n'existera pas entre les Comores, Madagascar et l'Est africain et Mayotte. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on vous vend, c'est du vent. D'ailleurs, parce que je vais même approfondir la réflexion, il y en a qui meurent, mais il y en a qui passent. Les gens qui passent et qui ont des proches qui sont morts, est-ce que vous pensez qu'ils vont être en paix?
Alors, il nous reste pas beaucoup de temps, Michael. L'auditeur posait la question, vous posez la question, qui détient l'économie à Mayotte? Et qu'est-ce demain, si vous êtes élu, comment inverser cette tendance? Qui détient l'économie?
Ben, je
Enfin, la
pense.
richesse, ou les richesses.
Ben, écoutez, Mayotte, ça me semble quand même être une terre d'importation. Donc, j'ai écouté mon prédécesseur qui voulait produire local. On est quand même une terre d'importation. Et ceux qui détiennent les richesses, ben, ce sont les capitalistes qui détiennent les marques, les moyens de production de tout ce qu'on utilise. Donc finalement, bah, ce sera les mêmes qu'ailleurs. Parce que le capitalisme, lui, il n'est pas localisé, il est international. La production, elle est internationale. Elle ne s'arrête pas à un pays. Donc finalement, désolé, mais ma voiture, bah, c'est une Peugeot, donc bah, c'est la famille Peugeot qui détient l'économie ici. C'est CMA CGM de Sade, qui a une fortune de 9 milliards, qui détient l'économie parce que c'est lui qui décide, c'est lui le transporteur qui ramène les marchandises ici. D'accord? C'est Total. Et toutes les compagnies pétrolières, c'est elles qui décident de l'essence qu'on produit qui nous permet de faire fonctionner nos voitures, qui permet aussi de produire de l'électricité ici, d'accord? Donc finalement, si on ne raisonne pas de façon globale, internationale, ben, il nous manque des éléments et on n'arrive pas à comprendre le monde et on n'arrive pas à le combattre, ni à améliorer nos existences.
Merci beaucoup, Seyfi Mickaël. Je rappelle que vous portez l'étiquette lutte ouvrière dans la première circonscription de Mayotte. Merci
Merci à
d'avoir
vous.
été avec nous.